Religion du monde, Geneviève Delru.
Les gens pensent que la richesse, la gloire, le pouvoir est la fondation du bonheur. Mais nous savons que c'est la compréhension et la compassion qui sont nécessaires au bonheur véritable.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission Retour sur la disparition de Thich Nhat Hanh, qui s'est éteint à 95 ans le 22 janvier dernier à Hue, sa ville natale au centre du Vietnam. Icône mondiale de la bienveillance, de la non-violence, il a fait de nombreux émules en Occident. Puis de violence, il en sera malheureusement essentiellement question avec la récente publication de l'index mondial 2022 de persécution des chrétiens de l'association protestante Portes Ouvertes, avec un chiffre éloquent, 360 millions de chrétiens à travers le monde seraient discriminés, voire persécutés, soit 20 millions de plus que l'index 2021. Et nous refermerons notre émission sur une note positive avec le plaidoyer sur la fraternité de Mgr Jean-Paul Vesco, encore évêque de Rouen pour quelques jours. Il va très prochainement rejoindre le diocèse d'Alger dont il prendra la tête le 11 février prochain. Le futur évêque d'Alger vient de signer avec un chrétien et un musulman le livre « Une fraternité des fraternités » aux éditions Bayard.
Quand vous marchez dans la pleine conscience, quand vous respirez, chaque inspiration, chaque expiration et chaque pas que vous faites, c'est une sorte de prière. Un pas fait dans la pleine conscience, c'est déjà une prière.
Une autre grande voix de la paix vient de s'éteindre. Après la disparition, fin décembre, de Desmond Tutu, la conscience de l'Afrique comme l'appelait Nelson Mandela, l'Occident, où il a vécu près de 40 ans en exil, et le Vietnam, son pays natal, perdre un autre maître de sagesse qui avait popularisé le concept de pleine conscience et la méditation. Ces obsèques auront duré 7 jours sous la forme d'une retraite silencieuse. Au micro de Frédéric Noir, correspondant de RFI au Vietnam, un jeune homme exprimait son chagrin.
C'est une nouvelle vraiment triste. C'est une perte pour des millions de personnes au Vietnam et dans le monde entier. Thich Nhat Hanh portait des valeurs universelles, comme l'humilité, la générosité et l'empathie. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, il m'a appris beaucoup de choses pour apprécier chaque moment, tous les petits instants de la vie et surtout comment devenir heureux.
Comment devenir heureux ? En effet, Thich Nhat Hanh a voulu montrer cette voie simple, comme on a pu aussi l'entendre en ouverture de cette émission, quand ma consoeur de RFI, Caroline Lachowski, l'avait rencontré à l'aéroport de Roissy, c'était il y a 15 ans. À 80 ans, Thich Nhat Hanh s'apprêtait alors à revenir passer quelque temps au Vietnam, son pays natal qu'il avait dû quitter au moment de la guerre du Vietnam, où son combat pour la paix lui avait attiré les foudres de tous. Retour sur la vie et les enseignements du grand maître du bouddhisme zen, qui a enseigné la pleine conscience, écrit une centaine d'ouvrages, donné ses enseignements aux États-Unis, puis en France, le pays de son exil, où il a fondé dans le Périgord le village des Pruniers, un monastère pour les hommes, un monastère pour les femmes, vivant séparément, et un centre de méditation qui a attiré de nombreux fidèles. Pour Fabrice Midal, un des spécialistes en France du bouddhisme, Thich Nhat Hanh est une conscience du XXe siècle et un précurseur.
Thich Nhat Hanh, c'est lui qui a été le premier à avoir l'intuition que la méditation pouvait transformer le monde. Et aujourd'hui, la méditation a un tel impact, en grande partie grâce à lui. Alors en France, il n'est pas aussi connu que peut-être le Dalai Lama, mais dans la plupart des pays, c'est vraiment une référence, c'est vraiment une des plus grandes figures spirituelles de notre temps. Et ce qu'on sait peu, c'était que c'était quelqu'un de très révolutionnaire, parce que quand il était jeune, il s'est beaucoup opposé à la manière dont le bouddhisme, comme il le connaissait, lui semblait archaïque, ne mettant pas en question les violences sociales et l'injustice. Et il a joué un rôle vraiment important pour la paix, donc c'est vraiment une figure incroyable.
Rénovateur du bouddhisme, pionnier de la méditation en Occident, introduisant ce concept de pleine conscience, pour en parler avec nous, en ligne du sud de la France, la journaliste, essayiste et conférencière Céline Chadelat, qui a coécrit avec Bernard Baudouin « Thich Nhat Hanh, une vie en pleine conscience », publié donc aux Presses du Châtelet. Céline Chadelat, bonjour.
Bonjour.
On va déjà écouter ensemble la voix de Thich Nhat Hanh qui expliquait à Caroline Nachovski ce qu'il fallait abattre en l'homme.
L'ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est l'intolérance, la haine, la colère et les perceptions erronées. Il faut combattre tout cela, il faut tuer tout cela, mais pas l'homme. Donc, sur ce principe-là, j'ai pratiqué et j'ai agi. L'homme n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est l'avidité, la colère, la discrimination, etc. Et on peut toujours aider l'autre personne à transformer ces choses négatives en eux, avec la patience, avec la compassion. Cela peut devenir possible.
Céline Chadla, vous venez d'entendre Thich Nhat Hanh. Est-ce que c'est cela qui vous a séduit chez lui? Donc vous qui pratiquez le yoga, vous qui pratiquez la méditation et qui lui avez consacré donc cette biographie aux Presses du Châtelet.
Thich Nhat Hanh, en fait, dans sa... c'est d'abord une présence. Et là, dans ces mots que vous avez diffusés et dans le ton qu'il emploie, il y a une profonde simplicité, une humilité dont jaillit un amour, en fait, qui touche les cœurs. Et moi, qui m'a profondément touchée quand je l'ai rencontré pour la première fois au Sénat, où il donnait une conférence de presse. Il y a plusieurs années, ça devait être en 2011. Et oui, c'est d'abord sa présence, parce qu'en fait, Thich Nhat Hanh, c'est un enseignement qui est incarné, profondément incarné, au vif des événements. Et c'est ce qui m'a touchée, oui.
Cette présence, cette voix, ce regard, cette bonté.
Oui. Oui, ouais, tout à fait. Et j'irais même plus loin, je dirais cet alignement aussi, parce qu'en fait, pour pouvoir... rayonner ses qualités, il faut aussi faire preuve d'une constance, d'une discipline qui caractérise aussi les maîtres zen et qui est extrêmement frappante, en tout cas quand on a pu rencontrer Thich Nhat Hanh. C'est ce qui a vraiment, enfin, moi ça m'a frappé aussi de voir à quel point il était droit en fait dans son...
Vous voulez dire droit, physiquement voilà. Aussi droit physiquement que dans sa vie, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire?
Je dirais. Oui, c'est vrai, non, mais ça ressort effectivement.
Une oui, dans sa posture, oui.
Dans sa posture, et une droiture intérieure et une droiture extérieure, oui, dans sa posture, tout à fait.
Alors, une vie droite qui a commencé très jeune, puisqu'il devient moine à l'âge de 16 ans. Et après, il aura effectivement toujours cette même ligne. Quoi qu'il se passe, il va s'attirer, comme je disais tout à l'heure, hein, les foudres au moment de la guerre du Vietnam, de tous les côtés, hein, quand il prône la réconciliation. Mais il va toujours tenir sa ligne.
Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est quand même très fort, finalement. Parce qu'arriver à tenir cette ligne, cette neutralité, face à un conflit d'une telle complexité où il est tellement facile en fait de tomber dans les divisions qui ont malheureusement traversé le Vietnam à cette époque, c'est quand même un exercice très périlleux de pouvoir sans cesse rappeler l'importance, enfin l'écoute, la bienveillance, la compassion entre les parties, et qui malheureusement n'a pas été intelligible en fait, enfin beaucoup les deux parties en question de l'époque durant la guerre, n'ont pas entendu. C'était quelque chose qui était difficilement compréhensible et pourtant qui est une voix extrêmement positive, à tel point qu'il a été finalement exclu du Vietnam suite à ses propos, notamment aux États-Unis en 1968.
En 1968, effectivement, il doit quitter son pays. Il passera d'abord par les États-Unis et puis après, il arrivera en France.
Exactement. Oui, alors il ne pouvait pas se résoudre en fait à vivre aux États-Unis, même s'il y a reçu un accueil plutôt positif. Et il y avait des associations pour la paix qui l'ont accueilli là-bas, mais il ne pouvait pas se résoudre à vivre finalement chez un des protagonistes du conflit qui est en train d'instrumentaliser son pays. Et donc, étant donné qu'il était aussi francophone de langue, il a préféré partir s'installer en France. D'abord, pas très loin de Paris, autour de Troyes, où sa communauté est restée quelques années avant de rejoindre et de créer le village des Pruniers. dans le sud-ouest de la France.
Effectivement, dans le Périgord. Avant de revenir sur cette grande période de sa vie, le village des Pruniers, quelques mots sur cette écoute profonde qu'il conseille même effectivement aux protagonistes dans le cas d'un conflit. Là encore, il se confiait donc à Caroline Lachowski, c'était il y a 15 ans, il avait alors 80 ans, il s'apprêtait à passer quelques temps au Vietnam où il revenait pour cette courte période.
Dans le bouddhisme, on dit que tout le monde peut devenir un Bouddha, c'est-à-dire la nature du Bouddha, le bien, la compassion, la compréhension sont en eux, en forme de graines. Mais si les graines de compassion et de paix ne se manifestent pas, c'est parce que personne n'a aidé ces gens-là à développer, à arroser ces graines. Et si vous êtes là avec votre compassion, avec votre tolérance, et si vous pouvez arroser ces graines en eux, alors ça devient quelque chose de formidable et ça se transforme. La personne se transforme. On n'a pas à tuer l'homme. On doit tuer seulement les choses négatives dans l'homme. Et cela avec la communication. Et la communication est impossible s'il n'y a pas d'écoute profonde et compassionnée.
Céline Chadla, sur cette capacité précisément d'écouter, même d'écouter l'ennemi, dans un article que vous avez publié, alors vous allez me rappeler le nom de cette revue, vous rappelez ce moment où une personne demande à Thich Nhat Hanh si vous aviez rencontré Ben Laden, qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous fait? Et il a répondu... Je l'écouterai, c'est ça?
Alors, je l'écouterai et je me mettrai, j'essaierai de comprendre en fait les raisons, ses motivations et de me relier à son humanité en fait. Et donc, oui, Thich Nhat Hanh, en fait, c'est ce qui, moi, je trouve que c'est la grandeur et vraiment de son œuvre, c'est que quelle que soit la personne, il a toujours tenté de se relier à l'humanité de cette personne. Et alors, ça peut être autant les GIs américains qui, de retour aux États-Unis, pour la plupart, étaient quand même très, très traumatisés. Et lui, il est allé à leur rencontre, alors qu'ils avaient été... les premiers sur le terrain, malheureusement, ça avait été peut-être le dernier chaînon dans l'ordre de la guerre et pour tirer sur les Vietnamiens. Et pourtant, lui, il est allé vers eux comme il a essayé de comprendre effectivement Ben Laden, mais aussi, par exemple, les pirates, lorsque les Boat People, quand les Vietnamiens quittaient le Vietnam en 1975, s'entassaient sur les bateaux et certains, durant leur périple, se retrouvaient face à des pirates avec des exactions terribles, des viols, etc. Et bien, il essayait de comprendre comment cette personne pouvait agir et pouvait finalement en arriver là. Et ça, c'est l'exercice de la compassion en fait au vif du réel.
Est-ce qu'elle a été critiquée, cette compassion?
Oui, déjà, bien sûr, au moment de la guerre au Vietnam, par les Vietnamiens eux-mêmes, au départ. Et puis ensuite, non, elle n'est pas toujours comprise, évidemment, parce que la compassion, elle vient unir, en fait. Elle vient en faisant un effort de compréhension, en faisant un effort de... de compréhension, d'humanité, on vient unir l'humanité elle-même. Et ça peut déranger, ça peut être effectivement inintelligible pour certains. On peut pas, c'est incompréhensible parce que aussi quand on est sous le feu de la violence, il faut bien comprendre qu'il y a de la souffrance qui est engendrée. Donc effectivement, ça peut être très critiqué. Mais quand même, soyons positifs dans le sens où, par exemple, si on revient à l'exemple de Ben Laden, le livre de Thich Nhat Hanh, La colère, est sorti le 12 septembre 2001, donc le lendemain des attentats du World Trade Center. Et quelques jours plus tard, il a fait une conférence à New York où il a expliqué les racines de la colère en expliquant aux Américains comment il était possible de transformer finalement leurs émotions en allant vers la compassion. Et il a reçu un très bel accueil et les Américains ont été très sensibles à son message. Je dirais que la compassion, quand c'est juste des mots, l'effet peut être, disons, mitigé, mais quand on l'incarne vraiment comme lui l'a fait, avec présence, comme je vous le disais au début, avec amour, avec ouverture, eh bien, on peut changer les cœurs.
Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas eu le prix Nobel, contrairement justement à Desmond Tutu que je citais au début de notre entretien?
Comment je l'explique? Alors, c'est vrai que Martin Luther King avait écrit une note pour soutenir la candidature de Thich Nhat Hanh pour le prix Nobel de la paix. Et effectivement, alors moi, je l'explique par le fait que peut-être que le prix Nobel est aussi au cœur de certains enjeux géopolitiques qui nous dépassent et d'une part, et puis ensuite je crois aussi qu'il aurait pu effectivement le recevoir même plus tard parce que là Martin Luther King c'était en 1967 et il aurait pu le recevoir plus tard, mais Thich Nhat Hanh aussi était quelqu'un quand même de très discret, très réservé. Alors il a une aura formidable aux États-Unis, dans de nombreux pays du monde, mais ça restait quand même quelqu'un aussi qui était dans une forme de discrétion.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté, vous, ce concept de pleine conscience qu'il a développé? Qu'est-ce que ça vous a apporté, par exemple, vous, sur un plan personnel? Quelle définition donneriez-vous de la pleine conscience?
Alors, la pleine conscience, c'est fondamental. Et en fait, quelle que soit, notre culture ou notre religion, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est l'accroche avec la réalité, avec ce qui est autour de nous.
C'est-à-dire être au monde.
Ouais, c'est être au monde, et donc être, qu'est-ce que c'est? Quand on est là vraiment, quand on est vraiment présent, qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, on donne de l'amour.
Céline Chadla, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Thich Nhat Hanh, une vie en pleine conscience. Et je vous propose de refermer cette page sur ce grand maître du bouddhisme. Avec ses paroles de sagesse, c'était à propos de notre société moderne.
Les gens sont trop occupés. Ils ont beaucoup de projets à réaliser. Ils n'ont pas le temps pour s'asseoir et regarder en profondeur. C'est le problème de notre civilisation. C'est le problème. On est trop occupé avec son quotidien. Il faut vivre plus simplement pour avoir plus de temps à être en contact avec les merveilles de la vie qui sont autour de nous et en nous, pour notre transformation et guérison. Avec une vie plus simple, on aura le temps pour pouvoir aimer, pour pouvoir comprendre soi-même et les autres autour de nous. La plupart de nous pensent au bonheur en termes de consommation. Le bonheur, c'est la paix. Le bonheur, c'est la communication. Le bonheur, c'est l'amour. Alors, tout ça demande du temps. Est-ce que vous pouvez aimer si vous n'êtes pas là, si vous êtes trop occupé? Si vous êtes trop occupé, vous n'avez pas le temps pour aimer, pour comprendre. Et la chose est simple.
La liberté de religion est un droit de l'homme universel, inaliénable. Ce droit est indépendant des lois, des croyances et des coutumes d'une société. Lorsque la liberté religieuse s'éteint, les autres droits suivent souvent le même chemin. La persécution des chrétiens est ainsi souvent un signal d'alarme indiquant la faillite d'un État ou son virage autoritaire. Derrière ce classement et ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes et des enfants dont les droits sont bafoués et qui doivent vivre au quotidien la pression et la discrimination comme prix de leur foi. Cet index sert à faire connaître leur situation et à faire entendre leur voix.
Chaque année, l'ONG Évangélique Portes Ouvertes, membre de la Fédération protestante de France, publie son index mondial des persécutions des chrétiens à travers le monde. Ce classement est important car il est aussi un baromètre de la situation des droits de l'homme quand on sait que la liberté religieuse va de pair avec la liberté de pensée et d'expression. Dans l'index 2022 qui concerne l'année écoulée entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, la Corée du Nord perd sa première place au profit de l'Afghanistan et en tête de classement figurent également la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, le Nigeria, suivi du Pakistan, de l'Iran, de l'Inde et de l'Arabie Saoudite. Sur la méthode d'approche et d'analyse, Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France-Belgique.
Nous avons 12 mois d'analyse chaque année et donc cette analyse nous permet justement de parler et surtout de donner des informations chiffrées et d'expliquer l'intensité de la persécution dans le monde, dans 76 pays dans le monde. Et de ces 76 pays où la persécution est forte, nous faisons un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement discriminés et persécutés pour leur foi.
C'est ça, il y a différentes, bien sûr, intensités, si je puis dire. Il y a toute une échelle qui part de l'assassinat et qui va jusqu'à cette persécution quotidienne larvée. Donc tout cela entre dans l'indice de persécution.
Exactement. Donc ce qui fait la spécificité de cet index, c'est que nous allons isoler la violence de la vie privée et publique. Et ça nous permet de faire des comparaisons entre les pays. Donc nous analysons les faits de violence, les assassinats, les kidnappings, les viols, les destructions d'églises. Donc ça, c'est un facteur. Mais il y a encore 5 autres facteurs. Et ça, c'est l'analyse de la discrimination au niveau de la vie privée. Est-ce que je peux croire ou ne pas croire dans mon pays? Au niveau de la vie familiale, est-ce que ma croyance est acceptée par ma famille si je change de religion, par exemple, ou si je ne crois en rien du tout? Troisièmement, la vie sociale. Donc ça, c'est la vie en communauté. Comment les chrétiens sont vus dans leur communauté? La vie civile. Est-ce qu'il y a des lois contraignantes pour les chrétiens? Et ensuite, la vie ecclésiale. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la société accepte qu'il y ait une église visible dans le paysage, dans le pays? Et donc, nous avons 6 facteurs que nous analysons et ensuite nous les regroupons pour obtenir un score de persécution. Et ce score de persécution nous permet de comparer les pays entre eux.
Alors, avec un chiffre brut, chaque année, donc cette année, c'est 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés ou discriminés dans le monde. Ce chiffre est en augmentation?
Ce chiffre est en augmentation. L'année dernière, nous étions à 340 millions de chrétiens. Cette année, nous atteignons vraiment un plafond. La persécution des chrétiens n'a jamais été aussi forte depuis que nous publions cet index. La première publication de cet index, c'était en 1993. L'année prochaine, nous aurons les 30 ans de cet index et on s'aperçoit que c'est la violence qui augmente le plus dans cet index.
Donc violence, c'est-à-dire assassinat, kidnapping,
exactement,
tout ce qu'on est cité.
Tous les faits que les médias reprennent, et c'est voulu d'ailleurs par les persécuteurs. Au contraire de cette persécution, ou plutôt de la discrimination, qui va étouffer les chrétiens et qui n'est pas toujours visible, mais qui, à long terme, a peut-être une conséquence encore plus dramatique pour les chrétiens, parce que le but, c'est vraiment d'éradiquer le christianisme.
Alors cela, c'est le facteur principal, c'est le djihadisme, c'est où est-ce que vous situez la cause principale?
Alors, si nous prenons les 50 pays de l'index, 38 pays sur les 50, le moteur de la persécution, c'est l'extrémisme islamique.
Islamiste, oui,
c'est ça. Ensuite, nous avons d'autres facteurs de persécution, comme le totalitarisme en Corée du Nord, en Chine également, une certaine forme de dictature ex-communiste. Et ensuite, nous avons aussi le nationalisme religieux, comme en Inde, où les hindouistes radicaux mettent vraiment une pression très, très, très forte sur les chrétiens. Et lorsqu'on met ces facteurs ensemble, on arrive à un chiffre impressionnant de 360 millions de chrétiens, donc un chrétien sur 7 aujourd'hui dans le monde qui est persécuté ou discriminé pour sa foi.
Alors, toujours bien sûr, la Corée du Nord, bon, cette année, elle est en numéro 2, bien sûr dépassée par l'Afghanistan, suivie de la Somalie, Yémen, Érythrée, Nigeria, on en a parlé, Nigeria, Pakistan, Inde, Arabie Saoudite, ça c'est vraiment le classement des 12 premiers, le Soudan arrive en 13e position. Mais alors, ce qui est extrêmement impressionnant, Patrick Victor, dans cet index de persécution, donc de Portes Ouvertes 2021, c'est le Nigeria. Sur 100 chrétiens tués dans le monde, 80% sont du Nigeria.
Oui.
C'est énorme.
C'est énorme. Oh, il faut vraiment le signaler. Et nous, en tant que communauté internationale, nous devons réagir. ce sont 4650 personnes qui ont été assassinées l'année dernière. Boko Haram, les bergers peuls, l'État islamique, ce sont les principaux pourvoyeurs d'assassinats au Nigeria, surtout dans le nord du Nigeria. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les djihadistes de tous bords descendent vers la ceinture centrale et commencent à faire des entrées dans le sud. Et donc, nous sommes très préoccupés par cette situation. Et cela entraîne évidemment un grand nombre de chrétiens qui deviennent des réfugiés internes dans leur propre pays, qui se retrouvent dans des camps où, à nouveau, il peut y avoir de la persécution. Et donc, c'est une situation très difficile. À cela se rajoute la crise sanitaire, la famine, et vous avez une situation qui est vraiment catastrophique.
Le Nigeria, ce sont aussi les kidnappings.
Vous savez, j'ai vu une vidéo hier, et ça c'est très très récent, qu'on m'a envoyée de là-bas. Et dans cette vidéo, on voit des djihadistes rentrer dans une école et ils font déshabiller des enfants et des filles de 17-18 ans pour les emmener ensuite dans leur camp.
Donc esclaves sexuels, enfin, tout ce qu'on peut
exactement
imaginer.
Exactement. Et donc c'est une réalité presque quotidienne. Et donc l'être humain a une valeur pour les djihadistes. Les femmes, les filles sont violées ou sont mariées de force. On se souvient de Léa Charibou, qui est toujours vivante et qui a été kidnappée, mariée de force à un djihadiste. On dit aussi qu'elle a eu un enfant. Et voilà, c'est vraiment une situation qui est très, très grave là-bas.
Une parenthèse sur vos sources, vos informations. Comment les obtenez-vous? Là, vous parlez de cette vidéo. Il y a effectivement le lanceur d'alerte que vous avez invité lors de votre conférence de presse. D'une façon plus générale, comment vous obtenez les informations?
Alors, Portes Ouvertes, en tant que ONG, existe depuis 1955. Donc, cela fait 67 ans que nous avons une présence dans beaucoup des pays qui sont aujourd'hui dans cet index. Et donc, nous avons des réseaux, nous avons des partenaires, et ce sont des réseaux qui peuvent se retrouver à l'échelle d'un village. Et donc, nous avons des remontées d'informations qui sont récurrentes, qui sont régulières.
Discrètes, on peut supposer.
Et discrètes aussi. Et notre travail, c'est de les analyser. Nous avons une équipe de recherche dans une organisation qui s'appelle Open Doors International et qui fait un travail minutieux de recherche, de mise en commun des informations.
Que vous recoupez.
Et nous recoupons, bien entendu, toutes ces informations et nous auditons également le rapport avant qu'il soit publié pour qu'il y ait vraiment une crédibilité. Et que
auditer, ça veut dire quoi, vous êtes...
Auditer, c'est-à-dire que nous avons des organismes externes qui vont analyser les données, qui vont analyser les cas de persécution et qui vont nous dire, oui, ce sont des informations qui sont tout à fait valables. Et donc, ce sont des experts externes qui jettent un regard sur notre travail et qui donnent alors une forme de validation avant que nous publions comme nous venons de le faire.
Alors, la crise du Covid, la pandémie, a aussi été un facteur aggravant, semble-t-il, dans ces pays où la persécution, où la discrimination existe. Alors, on pense au Pakistan, notamment. Il y a des histoires d'infirmières, c'est ça, qui n'ont pas pu être protégées
au Pakistan,
dans par des masques, c'est ça?
Oui, vous êtes très très bien informé. Donc au Pakistan,
c'est pas vous, hein.
Merci. Au Pakistan, des infirmières, des infirmiers chrétiens qui s'occupent de malades du Covid ne recevaient pas, parce qu'ils étaient chrétiens, de masques, de gants, de vêtements pouvant les protéger. Et nous avons un chiffre malheureux de 120 personnes qui sont décédées suite aux maladies du Covid, donc des maladies en fait dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons aidé beaucoup de ces infirmiers, infirmières en 2020 et aussi au début de 2021 pour leur donner des vêtements et pour se protéger, pour leur expliquer aussi les risques, parce qu'au départ, les gens ne comprenaient pas les risques du Covid. Vous vous souvenez,
c'était une période un peu trouble. On était dans l'ignorance.
Un peu trouble, on était totalement dans l'ignorance. Et donc, nous avons aussi pu former ces personnes et les aider à se protéger. Donc, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas les autorités qui le faisaient, mais c'était la mission au travers de notre réseau de partenaires.
De même pour la distribution de nourriture. Alors, je me souviens l'année dernière, hein, lors de la présentation du rapport 2020, il avait été question de ces familles. Alors, c'est en Inde, c'est ça, qui n'avaient pas pu bénéficier de l'aide alimentaire. En gros, c'était « débrouillez-vous parce que chrétienne ». Et ça, on retrouve ces cas de figure pour 2021.
Exactement. On retrouve le même mode opératoire des autorités qui est d'ignorer systématiquement les villages dans lesquels habitent des chrétiens. Et ça se sait. Et je me souviens de ce témoignage d'un couple qui voyait passer le camion de nourriture devant eux et ils savaient qu'ils étaient ignorés parce qu'ils sont chrétiens. Et donc, c'est une discrimination qui est honteuse.
Ça, c'est l'extrémisme hindou.
C'est la Hindutva, comme il le mentionne, et c'est encouragé par le parti qui est au pouvoir. C'est encouragé par les religieux hindouistes. Et donc, il y a des militants, il y a une milice nationaliste extrémiste qui est en train de mettre des messages de haine sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ne bloquent pas ces messages de haine, malheureusement. Et bon, voilà.
Qu'est-ce qu'ils disent, ces messages ?
Ce sont des messages qui encouragent à la violence. Ce sont des messages qui disent « Les chrétiens ne font pas partie de notre pays. Faites attention aux chrétiens. Ces chrétiens sont occupés à convertir de force nos populations. » Et il y a même des messages qui vont jusqu'à dire « décapiter les chrétiens ».
Ce qui explique que l'association de Mère Teresa, à un moment donné, elle a failli ne plus recevoir de subsides extérieurs, ce qui voulait dire sur place la fin de cette œuvre.
Exactement. Donc quand le BJP est arrivé au pouvoir, une des premières actions qu'ils avaient faites, je crois que c'était en 2004 ou en 2006, ils ont coupé les liens à beaucoup d'œuvres missionnaires. Et donc, et ce travail s'est poursuivi. Et le 25 décembre 2021, qui est évidemment une date symbolique pour les chrétiens, le gouvernement a annoncé d'arrêter le financement des œuvres caritatives, dont Mère Teresa, mais également Amnesty International. Et donc, il semble, mais il faudrait vérifier cette information, qu'entre-temps, ils ont rétabli la situation.
En effet, je confirme, donc, les missionnaires de la charité face au tollé soulevé pourront continuer de percevoir de l'argent de l'extérieur. Alors, concernant la situation des pasteurs en Algérie, l'Algérie cette année est à la 22e place et la discrimination à l'égard des chrétiens est en hausse, notez-vous. Alors, quelle forme prennent ces discriminations ?
Le phénomène le plus visible, ce sont les fermetures d'églises. Voilà. Donc, ce sont 16 églises qui ont été fermées et qui n'ont pas été réouvertes. Je pense notamment à l'église de Tizi Ouzou, qui est une église protestante et qui a été fermée en octobre 2019. Et cette église est toujours fermée.
Oui.
Et donc, les personnes qui vivent autour de cette église et dans cette église n'ont plus de relations sociales. Et je pense notamment aux femmes et aux enfants ces églises étaient un lieu de rencontre, étaient un lieu de partage, étaient aussi un lieu d'entraide. Et tout cela a disparu. Donc, c'est très, très difficile pour ces personnes. Donc, ça, c'est un des phénomènes de la fermeture des églises qui entraîne, en fait, des difficultés de vie pour ces personnes.
Une petite part sociale, oui.
Exactement. C'est la communauté chrétienne qui est ciblée. Alors, il y a d'autres phénomènes de persécution. Par exemple, les convertis d'arrière-plan musulmans, eux, sont systématiquement ciblés par leur famille, doivent souvent quitter leur famille, leur ville, pour se réfugier ailleurs parce qu'ils sont pourchassés par leur famille, parce qu'ils sont traités de traîtres à la famille et à l'islam.
Oui, ça, c'est tout le problème de la conversion en islam. Alors, on terminera avec vous, Patrick Victor, sur l'utilité, j'allais dire, ou l'impact, plus exactement, de cet index. Est-ce que pour vous, cet index est un appel auprès des autorités officielles pour réagir, pour entrer en action ?
Avec cet index, ce que nous voulons faire, c'est tout d'abord informer, mobiliser l'opinion publique, mais également parler aux élus, aux diplomates, qui apprécient ce document et qui l'utilisent eux-mêmes lorsqu'ils font des interventions avec leurs homologues politiques dans certains pays où les chrétiens sont persécutés. Heureusement, aujourd'hui, nous avons une écoute des élus, que ce soit en France, que ce soit au niveau du Parlement européen, que ce soit dans d'autres capitales européennes et dans le monde. On pourrait faire beaucoup plus, mais c'est une première bonne étape et nous espérons que nous allons pouvoir aller encore plus loin avec cet index.
Je vous remercie. Alors, je pense qu'on peut le retrouver sur Internet. Il suffit de taper Portes Ouvertes.
Vous pouvez aller sur notre site web, oui. portesouvertes.fr, au pluriel, en un mot. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine des informations de l'Église persécutée dans le monde.
Je vous remercie, Patrick Victor. Merci d'avoir été notre invité. Fermons cette émission avec le plaidoyer sur la fraternité de Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran, qui va très prochainement rejoindre le diocèse d'Alger. Mgr Jean-Paul Vesco, bonjour.
Bonjour.
Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes dominicain, vous êtes évêque d'Oran depuis 2012 et le 11 février prochain, eh bien ce sera la cérémonie d'installation, hein, c'est le mot consacré, vous deviendrez donc l'évêque d'Alger. Alors avant de parler avec vous de cette nouvelle fonction, on va évoquer ensemble ce livre que vous avez écrit avec deux autres auteurs. Un livre sur la fraternité, il s'intitule « Une fraternité des fraternités » et il est publié chez Bayard. Vous l'avez écrit avec Jean-Michel Boulanger, qui est un géographe breton très engagé dans la vie culturelle de la Bretagne, et avec Mohamed Louestlati, responsable national de l'aumônerie musulmane pénitentiaire. C'est un homme qui est très investi dans la déracalisation. Et d'ailleurs, je l'avais reçu effectivement pour son livre « L'islam en prison » publié chez Bayard en 2015. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi ce livre à trois voix, Jean-Paul Vesco?
C'est le fruit d'une rencontre. Nous sommes rencontrés il y a quelques années dans les Sept Dormants en Bretagne. Et il y avait avant ce pardon qui a été interreligieux, un petit colloque sur la fraternité d'une après-midi. Et il a lu le très beau texte de Jean-Michel Le Boulanger, donc, qui est effectivement investi dans le domaine culturel, mais qui était aussi premier vice-président de la région Bretagne. Donc c'était aussi un homme politique et un universitaire. Et c'était très intéressant sa réflexion sur ce triptyque liberté, égalité, fraternité, sur la place de la fraternité dans ce triptyque. Et nous avons décidé de poursuivre la réflexion ensemble avec Mohamed Louestlati et avec moi pour avoir, trois regards croisés, celui de la République, celui d'un musulman, pas de l'islam, c'est-à-dire que chacun parlait en son nom propre, et celui d'un chrétien. Nous avons échangé beaucoup de textes, nous avons fait à distance aussi, parce que c'était pendant le temps de la pandémie, nous avons échangé nos textes. Et puis finalement, c'est un texte principal de Jean-Michel Le Boulanger qui présente un peu sa vision de la fraternité dans la République, avec deux contrepoints, celui d'un évêque et celui d'un homme très engagé, effectivement, dans l'aumônerie musulmane des prisons. C'est une discussion, même si c'est sous la forme de trois textes construits avec une introduction et une conclusion qui reprennent un peu le livre.
Alors précisément, justement, liberté, égalité, fraternité, ce que vous soulignez tout, c'est que bien le mot fraternité est un peu à part, en fait, en réalité. Fraternité...
C'est très intéressant.
Oui, oui.
Tout à fait. C'est très intéressant. C'est-à-dire que j'avoue que on a l'habitude, nous, Français, de prendre ces trois mots qui sont un peu des leitmotifs, qui sont sur les frontispices de nos mairies. Et en fait, on s'aperçoit évidemment qu'ils ont une histoire, que le mot fraternité est arrivé après les autres. Il n'est pas directement le fruit de la Révolution française. Et on s'aperçoit qu'il ne fait pas nombre avec les deux autres. Parce que la liberté, l'égalité, d'une certaine manière, on peut les garantir par la loi. Et d'une certaine manière, elles sont... plutôt bien garantie. La fraternité, on ne peut pas la décréter. Elle vient d'en haut, mais elle vient aussi d'en bas. Elle vient de, elle est une responsabilité commune. Alors, elle apparaissait un peu dans le triptyque comme un peu anecdotique, et puis on s'aperçoit maintenant, avec ce que nous vivons en France, mais ce que nous vivons partout dans le monde, qu'en fait, elle est d'abord peut-être l'élément qui a le moins évolué, et puis surtout, elle est l'enjeu clé. En France, il y a un enjeu majeur de fraternité, et ça nous est apparu vraiment d'une façon très forte.
Alors, question à l'évêque que vous êtes, Jean-Paul Vesco, est-ce que la fraternité, c'est la racine chrétienne de la devise républicaine?
Alors, il est clair, alors ça, c'est pas l'évêque qui le dit, c'est l'homme de la République et celui qui a travaillé, il est clair que c'est effectivement une marque de la source chrétienne de la République. Donc ça, c'est clair. Alors, pas seulement, c'est-à-dire que c'est effectivement un héritage chrétien qui est rentré dans la République. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on a écrit chacun nos textes, chacun de côté, mais enfin, finalement, en regardant les autres dans les yeux, quoi, ou en les ayant un peu au-dessus de notre épaule, en disant, je m'adresse à quelqu'un qui est d'une autre tradition, enfin, qui porte une autre tradition, même si je porte la tradition républicaine en moi aussi, mais différemment, on s'aperçoit que, en fait, dans chacun de nos textes, il apparaît que la fraternité est une valeur centrale. Dans la République, c'est une valeur centrale. Dans l'islam, c'est une valeur centrale. Dans le christianisme, c'est une valeur centrale. Et pourtant, on se retrouve dans une société qui est en énorme déficit de fraternité. Voilà. Et alors, c'est étonnant parce que chacun, on se respecte, on s'aime beaucoup, et pourtant, bah oui, on avait l'impression que la fraternité, c'était quand même dans notre tradition, plus que dans celle des autres. Eh ben non. Et on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un conflit en France de fraternité, de conception de la fraternité, dans un excès de fraternité, peut-être, que dans un déficit de fraternité, ou dans un conflit de fraternité. Et ce qui nous est apparu aussi, c'est qu'il fallait passer d'une conception, de nos conceptions à chacun de la fraternité, à une fraternité plurielle, à une fraternité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, donc d'une fraternité à des fraternités. Donc c'est le titre finalement du livre. Mais on s'est aperçu que le rêve d'avoir une fraternité, alors nous, enfin, et puis qu'on allait substituer une fraternité à une autre, ne marche pas. Voilà. Nous avons des fraternités dans nos vies, des fraternités, une fraternité de sang, et puis après, qui se crée autour de projets dans la vie, plus la vie avance. Et puis après, on peut découvrir aussi une fraternité avec des personnes d'autres religions, et puis après, et ainsi de suite. Et de fraternité en fraternité, on peut avancer vers une fraternité qui a dépassé les frontières de sa tribu, de son sang, de sa religion, et arriver à cet idéal d'une fraternité plus universelle.
Comment se pose la fraternité, la question de la fraternité en Algérie, Jean-Paul Vesco?
Alors en Algérie, évidemment, c'est pour ça que mon regard était peut-être... voilà, que ça m'intéressait en tout cas. C'est qu'en fait, dans l'Algérie, la fraternité, dans l'islam, elle est extrêmement présente, extrêmement importante. Alors elle s'exprime sous la forme de l'hospitalité, bien sûr, mais elle est aussi sous la forme de la umma, de la nation. C'est-à-dire qu'on est frères parce qu'aussi on est frères de religion. Et ça, c'est quand même très fort. Et c'est une vraie question. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus de l'ordre de la fraternité de sang, d'une certaine manière, même si c'est la religion. Et nous, chrétiens, j'éprouve tout à fait, à la fois l'un et l'autre, à la fois une fraternité qui pourrait m'exclure parce que je n'en suis pas, et puis tout d'un coup, parfois ce dépassement de cette fraternité première pour aller vers l'universel. Dans la rue, on m'appelle Rouya, on m'appelle mon frère facilement, parce que tout le monde s'appelle mon frère. Dans la rue, on s'appelle mon frère, ma sœur, voilà, donc on se conçoit comme une famille. Et puis tout d'un coup, alors on me le dit aussi, même si je suis chrétien, parce que je fais partie de cette société, on peut m'interpeller comme ça. Et puis tout d'un coup, il peut y avoir une personne qui me dit « tu es mon frère ». Et quand il me dit ça, on a conscience qu'on a franchi une frontière, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est aboli et qu'on parle d'une autre forme de fraternité, plus grande, voilà, d'un dépassement de la fraternité. Et je crois que la fraternité, elle peut être la source de tous les conflits parce qu'en elle-même, en fait, elle pose des barrières, elle pose un contour et qui appelle un dépassement. Et en France, toute la question est là. La fraternité peut nous enfermer sur un communautarisme de toutes parts, peut nous faire refermer les uns sur les autres, ou au contraire, peut nous aider à franchir des frontières et à se reconnaître frères en humanité.
En décembre 2018, donc à Oran, s'est tenue la cérémonie de béatification des 19 religieux et religieuses, dont Christian oui. de Chergé, bien sûr, dont Pierre Claverie, donc assassinés entre 1994 et 1996. Est-ce que cette cérémonie a changé quelque chose, précisément, dans le dialogue islamo-chrétien en Algérie ?
Alors, en tout cas, elle a changé. C'était effectivement un très, très grand défi. C'est la première fois qu'une telle célébration se faisait dans un monde, dans une société qui se considère comme exclusivement musulmane. Il fallait l'expliquer. C'est déjà pas très facile d'expliquer dans un monde laïcisé, comme par exemple le monde de la France. Et là, qu'est-ce qu'est le message faire passer ? Et ça a été celui de la fraternité. Dès le début, nous avons dit, bah, ces 19 sont morts au nom de une fraternité choisie avec un peuple qui était en difficulté et en guerre civile. Et ça, ça a été vécu. Alors, on a eu une espèce de moment de grâce. Bon, ça a été compliqué à construire. Et tous ceux qui ont été sur l'esplanade de Juan Santa Cruz ont vécu un moment de grâce. Voilà. J'ai vu encore le maire de Oran hier pour lui dire au revoir et il m'en a reparlé. Alors après, est-ce que ça change la face du monde ? Ça n'a pas changé la face du monde. Ça n'a pas changé fondamentalement nos relations. Moi, on pouvait se dire qu'il va y avoir un avant et un après parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on s'est compris. Non, la fraternité, c'est un tonneau des Danaïdes et il faut sans cesse y revenir, réinvestir, accepter. Mais il n'empêche que voilà, quel est le fruit ? J'en sais rien. Immédiatement, il ne se voit pas. Ceux qui l'ont vécu le gardent comme un trésor. Moi, c'est un trésor qui me fera vivre. Ces sourires, ces regards, tout d'un coup, ne trompent pas. Bah oui, ça existe, c'est possible. Tous ceux qui l'ont vécu se sont dit, c'est possible. Et puis après, y a le poids des peurs, le poids de la vie qui est terrible. Voilà. L'ennemi de la fraternité, c'est la peur. Et donc, l'antidote de la peur, c'est la fraternité. Voilà. C'est une clé pour le monde. Donc moi, je le vis ici parce que nous sommes une église, qui veut être inscrite dans la société civile, qui fait peur, alors qu'elle n'est rien.
Numériquement, elle est très faible, effectivement, voilà. Elle est très faible.
Mais absolument, et dans nos œuvres aussi. Et on sent qu'aussi, bah, pourtant, il y a très vite la peur. Et voilà, nous ne pouvons pas être, objectivement, être une source de peur. Voilà. Et je pense que c'est pareil en France, c'est-à-dire que c'est des peurs réciproques. Il n'y a pas de fraternité sans la confiance. La fraternité, c'est le berceau de la confiance parce qu'une personne se construit dans sa famille, dans une fratrie, et elle apprend la confiance. Eh bien, je rêve que l'humanité entière, à un moment, puisse retrouver cette confiance et se vivre en fratrie. Vivre en fratrie, voilà.
Dernière question, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Comment voyez-vous votre arrivée le 11 février prochain à Alger ?
Mais écoutez, aujourd'hui, avec évidemment certaines difficultés à laisser un diocèse que j'aime et une ville que j'aime et des amis que j'aime et puis que je ne quitte pas tout à fait parce que je reste en charge du diocèse donc mon successeur ne sera pas installé et puis la gratitude par la confiance qui m'est faite, l'envie de continuer cette aventure algérienne qui depuis 20 ans est maintenant pour toujours. Je ne mourrai pas en Algérie et en tout cas je maintenant avoir une part encore plus grande à la vie de cette Église et puis à l'inscription de l'Église dans ce pays et puis je crois aussi en tant que Français à une réconciliation entre la France et l'Algérie, voilà, qui me semble tellement, 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 tellement importante.
Merci Jean-Paul Vesco, on terminera sur cette belle phrase.
Donc, merci beaucoup.
Je rappelle que oui. Vous signez aux éditions Bayard une fraternité des fraternités avec Jean-Michel Le Boulanger et Mohamed Louestati. Merci. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.